Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde intitulée Invasion des profanateurs, les parasites fiction. Nous avons donc discuté de parasites, de virus, d'épidémies, de cinéma, de choses pas très ragoûtantes, dirons-nous, à certains moments. Mais avec moi, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord Jean-Sébastien Steyer, paléontologue, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui est également auteur d'un livre sur le cinéma et la science-fiction. Et ensuite, François Moutin, ancien vétérinaire à Maison Alfort, directeur du centre épidémiologique de ce même laboratoire, et qui nous contera comment les virus, les parasites, les symbiotes fonctionnent et comment ils peuvent nourrir aussi notre imaginaire. Mais ma toute première question, je me tourne vers tous les deux, c'est quoi un parasite ?
Je veux bien essayer de commencer. En tout cas, bon après-midi avec une belle photo pour vous souhaiter vraiment la bienvenue. Vraiment, ça va saigner, n'est-ce pas ? Enfin, c'est clair. Donc, en fait, si vous avez remarqué, nous, êtres humains, on ne sait pas vivre uniquement d'amour et d'eau claire. On a également besoin de manger. Donc, nous sommes hétérotrophes. On ne peut pas faire comme les plantes, synthétiser la lumière pour en faire des glucides et récupérer après toutes les matières dont on a besoin pour se constituer. Et donc, on doit manger d'autres êtres vivants, qu'ils soient végétaux, qu'ils soient également animaux comme nous. Les parasites ont trouvé plus astucieux d'attendre que les prédateurs aient attrapé une proie pour se l'approprier en partie ou en totalité, voire d'aller s'installer dans l'hôte, H ou accent circonflexe TE, et se faire nourrir gratuitement par cet animal, par cet individu. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe, entre commensalisme, qui veut dire manger à la même table que partager un repas, parasite, il y en a un qui profite aux dépens de l'autre, ou commensalisme, ou symbiose, où chacun bénéficie de la présence de l'autre, ça peut être simplement des questions d'opportunité, où le commensal devient parasite, où le symbiote devient commensal, et c'est souvent une chaîne de situations où la frontière n'est pas toujours évidente. Alors certains sont des parasites toute leur vie par vocation, clairement, et certains le sont également par opportunité. Et la vie n'existe pas sans ce parasitisme, cette association. Actuellement, là, quand je vous parle, j'ai un petit virus qui se balade dans moi. Alors, je ne l'ai pas analysé, c'est sans doute un rhinovirus, peut-être un coronavirus, qui a trouvé sympa de venir chez moi aujourd'hui à Nantes, là, je ne sais pas pourquoi, parce que le temps a changé, parce que ceci, cela. Et là, bon, il y a une petite discussion entre lui et moi pour savoir qui va prendre le dessus. A priori, j'espère garder le dernier mot. Et on verra tout à l'heure.
Et je me tourne vers toi, Jean-Sébastien. D'un point de vue historique, toi qui es paléontologue, les premières traces de parasites connues ?
Alors, c'est une longue histoire, effectivement, le parasitisme. Les interactions, en fait, entre espèces, hein, c'est que ce soit du commensalisme jusqu'au parasitisme total, dans le cas des parasitoïdes, c'est-à-dire qu'à la fin du cycle, bah, y a plus d'hôte parce qu'il est mort. Donc, et parasite, finalement, une espèce ou un organisme qui profite soit totalement, soit en partie d'une autre, pour résumer. Et dans l'histoire paléontologique, dans ce qu'on appelle le fossil record ou l'enregistrement fossile, les parasites observés à l'état fossile ont au moins 400 millions d'années. Il s'agit de vers en fait, qui calcifiaient sur des coquilles, de coraux ou de, on appelle ça des tabulés à l'époque. On est à l'ère entre guillemets primaire, donc au paléozoïque, il y a 400 millions d'années dans les mers. Il y avait déjà des tonnes en fait de parasites, des espèces de tubes qui se collaient à la coquille en fait d'autres organismes marins. Donc on parle d'ectoparasitisme, comme c'est le cas par exemple de cette jolie forme bien connue de la science-fiction qui est Alien, qui commence en fait par un stade ectoparasitoïde. Alors Alien, c'est un parasitoïde ?
Apparemment, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de parasitologues dans l'espace. Moi, je n'en connais pas qui ait fait ce métier-là. Pensez quand même que si le parasite tue son hôte, il prend un risque, le parasite. Alors sans faire de finalisme, il faut que le parasite soit ait trouvé une façon de se reproduire avant pour que la descendance soit assurée, soit qu'au moment où l'hôte va mourir, il puisse changer d'hôte. Sinon, c'est du suicide. Alors évidemment, c'est des termes complètement finalisme, mais c'est la vie et le parasitisme maintient parce que justement, le parasite s'est trouvé le bon moment, soit pour changer d'hôte, soit pour maintenir son hôte en vie jusqu'au moment où il n'en a plus besoin. Alors Alien, on a regardé les films en long et en large. C'est une forme de parasitisme assez particulière. Moi, j'avoue que j'ai pas trop de références sur Terre qui puissent lui ressembler. Il faut être très, très patient si on est alien, le vrai du premier film, parce que là, c'est vraiment des durées plus longues que ce qu'on connaît sur Terre. Relativement aléatoire de trouver quelqu'un à se mettre sous la dent. Bon, parfois, il y a des bonnes occasions. Mais moi, je ne miserais pas trop sur ce genre de parasite-là. Je trouve que c'est vraiment risqué de prendre cette direction. Enfin, c'est un choix, c'est un commentaire personnel, mais je n'irais pas trop dans ce sens-là si je voulais aller loin et longtemps.
Et il existe beaucoup de la proportion, tu parlais de parasites qui attendent, qui se reproduisent en laissant leur hôte vivant, d'autres qui n'attendent pas. C'est quoi à peu près les proportions?
Alors, j'ai pas trop de chiffres en tête, sachant que qu'est-ce qu'on appelle parasite aussi? C'était la première question en fait. Est-ce qu'on parle de ce que les parasitologues appellent parasite? Donc ce sont plutôt des animaux pluricellulaires. Quelquefois, on associe des parasites unicellulaires. Et qu'appelle-t-on bactéries et virus? Est-ce qu'on les associe aux parasites? Alors les microbiologistes ont tendance à dire « c'est à moi et c'est pas à toi ». Donc il y a une fracture un peu artificielle entre les microbiologistes d'un côté, les parasitologues de l'autre. Mais finalement, le virus, c'est peut-être la forme de vie la plus aboutie, la plus astucieuse. Il y a vraiment le minimum vital, c'est le bout d'ADN ou d'ARN qui permet de se reproduire et tout le reste du superflu. Finalement, tout ce qu'on a sur nous, ça, c'est en trop. Et avec un virus, il est capable de se maintenir et certains sont certainement très, très anciens. Et penser que certains virus ont des virus. Alors, c'est peut-être une des preuves que les virus sont peut-être à rassocier à l'arbre du vivant, si on prend cette image. Les virus, c'est pas tellement parce qu'ils nous parasitent qu'on peut les associer au vivant, ce serait parce qu'eux-mêmes sont parasités par des virus, plus petits, évidemment.
Et on va prendre par exemple le cas très littéraire des zombies, par exemple, quand une épidémie de zombies. Est-ce que c'est une épidémie de. Enfin, est-ce que c'est des parasites, un mode de reproduction qui est concret, qui pourrait être réel ou,
Alors, bon, moi je suis biologiste, je ne connais pas du tout la science-fiction. D'ailleurs, depuis ce matin, je découvre beaucoup de choses. Je suis dans un monde, j'ai aucune référence culturelle par rapport à tous les mots que je vois. Il faut que je demande à chacun, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qui? Etc. Bon, j'apprends beaucoup de choses. Et du coup, les zombies, c'est pas dans mon univers habituel. Mais c'est vrai qu'en épidémiologie, quand on a fait des TD avec des étudiants, on a souvent fait des modèles avec le virus de la fièvre aphteuse chez les vaches, le virus de la rage chez les humains, pour modéliser une progression avec ou sans vaccin. Quand on a des vaches, on peut les abattre. Quand c'est des humains, on les vaccine. Petite différence, ne pas se tromper. Et quelquefois, pour motiver les étudiants, on remplaçait les virus par des zombies. Alors la différence, pour moi, c'est qu'avec le zombie, on peut donner les règles biologiques que l'on veut. Et elles peuvent être relativement arbitraires, c'est vous qui décidez. Inversement, le virus de la rage, vous décidez pas grand-chose. Il a sa méthode de pénétration, sa méthode de progression dans l'organisme, la durée moyenne d'incubation, la durée moyenne de la phase clinique. Et la rage, c'est la mort à chaque fois, à la fin, si la clinique s'est déclarée. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer et on peut produire un modèle derrière. Avec les zombies, l'intérêt, c'est que si on change des règles ou si on a des paramètres plus aléatoires, avec des règles aléatoires derrière, on peut effectivement, avec le même schéma initial, proposer plusieurs scénarios aux étudiants et tester des protocoles de lutte, de protection assez variée. On vaccine les gens contre les zombies. Bon, avec un vaccin anti-zombie, je n'en connais pas. On peut alors abattre les gens, ce n'est pas une bonne idée. Les zombies s'en chargent. Trouver des protections alors, immunitaires avec contre quoi, je ne sais pas trop. Des protections physiques. Mais on peut jouer sur différents scénarios, peut-être de façon plus large, puisque là, nous fixons nous-mêmes les règles.
Et au niveau justement de ces règles, comment ont réagi vos étudiants sur quand vous leur proposez ce genre de...
Alors, le souvenir que j'en ai, ça fait déjà quelques temps, puisque ça fait longtemps que je suis en vacances perpétuelles. On avait un groupe d'étudiants avec des collègues étrangers, des étudiants étrangers, et le plus compliqué a essayé de leur faire comprendre ce que c'était zombie. Parce qu'apparemment, dans beaucoup de cultures, il y a un équivalent, mais ce n'est pas toujours le même terme. Et simplement, le mot zombie était clair pour nos jeunes compatriotes français, moins clair pour des étudiants d'autres continents. Et c'est là qu'on a eu plus de mal à leur faire accepter de jouer à ce jeu-là.
Oui, c'est vrai que ça dépend. En fait, les œuvres de fantastique ou de science-fiction, il y a des zombies classiques où c'est juste des morts en fait qui sortent de terre et qui se baladent. Et puis il y a le zombie un petit peu comme le vampire en fait qui est infecté, où là on prend toutes les mesures, enfin ou certaines mesures épidémiologiques en fonction du degré de transmission, de l'agressivité du zombie ou du vampire. Et tout dépend finalement des œuvres de fiction, mais c'est une question d'interaction entre espèces qui se retrouve bien en fait dans beaucoup d'œuvres de science-fiction et aussi d'heroic fantasy ou de fantastique, puisque même dans Trône de Fer, il y a du zombie. Les White Walkers sont des sortes de zombies dont le remède existe soit par des armes spéciales, soit par certains protocoles en fait de décontamination ou d'élimination plus ou moins totale.
Mais par exemple, au niveau des zombies, toi, est-ce que tu as un film de zombies qui t'a marqué pour une certaine crédibilité scientifique ou un cadre qui ne soit pas fantastique?
Il y a pas mal de films ou d'œuvres de zombies. Ça serait difficile d'en choisir un ou une pour l'encenser. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, un zombie, c'est quoi? C'est un individu dont le cerveau est finalement déconnecté de ses actes physiques, quelque part. Alors, avec une apparence plus ou moins nécrotique, certes, mais ça se retrouve très bien dans la biodiversité. Il y a des parasites d'insectes qui vont bousiller, entre guillemets, le cerveau des insectes en question, qui vont faire plus ou moins n'importe quoi pour que le virus à l'intérieur puisse se propager. Alors j'utilise le mot pour, c'est très finaliste, effectivement, mais c'est ce qu'on appelle en fait des parasites manipulateurs qui vont altérer finalement le système nerveux plus ou moins central de l'organisme en fonction de l'état d'organisation de l'organisme. Hein, si vous êtes un insecte, vous avez un réseau de ganglions nerveux qui vous permettent en fait de voler ou de vous reproduire ou de détecter de la nourriture. Si vous êtes un vertébré, vous avez un cerveau, enfin vous êtes censé avoir un cerveau, etc. Donc ce système-là, il est attaqué en fait par en général l'endoparasite ou l'endoparasitoïde, s'il est un peu suicidaire. Et du coup, l'hôte est complètement manipulé. Alors, il peut se déplacer jusqu'à l'extrémité d'une brindille pour être croqué par le mouton ou la brebis qui va passer par là, qui va ingurgiter en fait l'hôte plus son parasite à l'intérieur. Le parasite en question ayant besoin du deuxième vecteur pour amener à terme en fait son cycle de développement. C'est très très complexe parfois et ça s'illustre très bien dans la biodiversité, quels que soient les clades, quels que soient les groupes. Insectes, annélides, arthropodes donc, ou mollusques, ou etc., vous avez de la présence de parasites quasiment à tous les niveaux.
Alors je répète, je ne connais pas la science-fiction, mais des scénarios comme La Petite Douve que vient de raconter Jean-Baptiste, il y a encore des plus extraordinaires. Donc vous avez ce qu'on appelle l'hôte définitif, c'est l'animal qui héberge le parasite adulte qui va se reproduire. Et entre l'œuf émis par l'hôte définitif, il peut y avoir plusieurs hôtes intermédiaires qui vont héberger des larves, donc des stades intermédiaires du parasite, qui ne sont pas en général infectants, mais qui peuvent se multiplier de façon asexuée, et qui vont manipuler complètement le comportement de cet hôte pour que l'hôte final finisse par l'avaler. Les moutons ne mangent pas des fourmis, mais une fourmi qui est parasité par la larve finale de la petite douve, va s'accrocher en haut d'une herbe et va se faire donc croquer. Elle ne bougera plus après, elle s'accroche par ses mandibules et elle attend patiemment que le mouton vienne la manger. Mais chez les vertébrés, donc nous en sommes, il y a un parasite, peut-être vous connaissez, parce que c'est important dans notre espèce chez les dames qui attendent des bébés, c'est le toxoplasme. On le trouve chez tous les mammifères, mais apparemment le seul mammifère qui héberge les formes reproductrices, ce sont les chats. Et pour que le chat s'alimente en parasite, il faut qu'il mange une souris qui héberge la larve du toxoplasme. Et paradoxalement, quand la souris est parasitée par la larve du toxoplasme, elle devient amoureuse des chats. Et la souris court après les chats, qui n'en demandent pas tant et qui la mangent. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a des questions qui sont posées sur la molécule qui permet à la souris de modifier son comportement. Et comme le toxoplasme est présent également chez les êtres humains, est-ce que de temps en temps, on n'est pas manipulé par son chat à travers un toxoplasme ? Méfiez-vous, méfiez-vous.
Il y a même, je rebondis, il y a même un modèle, on va dire, sociologique qui stipule que nos likes sur Facebook qui augmentent exponentiellement quand il y a des vidéos de chats ou de chatons seraient liés à un degré d'infection par toxoplasmose. Alors, donc méfiez-vous aussi de Facebook.
Et pensez à désinfecter vos téléphones régulièrement.
Mais en parlant des scénarios les plus alarmistes qui nous font peut-être un peu peur, surtout parmi vous dans le public, est-ce qu'il y a des parasites qui ne sont totalement indolores, auxquels on s'acclimate bien et avec qui on arrive plus ou moins à vivre en symbiose ou,
Alors, il faudrait écouter la conférence qui a lieu en ce moment à côté avec Marc-André Sellos, mais si moi j'ai plus de bactéries dans mon organisme ou sur mon organisme que je n'ai de cellules humaines. Et ces bactéries, j'en ai besoin pour digérer, pour me protéger d'autres bactéries éventuellement agressives au niveau de ma peau, au niveau des pores, au niveau de mon arbre respiratoire, au niveau de mon tube digestif. Ces bactéries-là, alors est-ce que ce sont des parasites ? En tout cas, ce n'est pas moi, ce sont des non-moi, mais je ne peux pas vivre sans. Et quand on va plus loin, toutes nos cellules hébergent des mitochondries, ça vous le savez, dans tout le monde vivant. Ce sont les petites usines énergétiques de nos organismes. Ce sont d'anciennes bactéries qui ont fait affaire avec nous et qui sont des symbiontes et on ne pourrait pas vivre sans elles. Et dans notre génome, on a entre 5 et 10% de l'ADN qui certainement correspond à des virus que nous avons croisés quand nous étions primates, voire mammifères, voire à peine reptiles, avec qui peut-être il y a eu des moments un peu difficiles de cohabitation. Mais en fin de compte, on a trouvé un modus vivendi. Ils se sont collés en phase ADN s'ils étaient ARN au départ. Ils sont avec nous. Et on pense qu'une des grandes questions de la biologie chez les mammifères, c'est pourquoi la femelle mammifère ne rejette pas l'embryon, puisque c'est un organisme différent génétiquement de son organisme. On pense que ce sont des virus qu'on a acquis au cours de l'évolution, intégrés à notre ADN, qui sont capables de protéger l'embryon du phénomène de rejet par la mère. Merci les virus.
Il y a tellement de complémentarité que quand on fait des études de relations de parenté, ce qu'on appelle la phylogénie, pour étudier quelle espèce est la plus proche d'une autre espèce, on fait ça pour les hôtes, enfin les organismes en général, mais on fait ça aussi pour les virus. Et on compare les arbres obtenus avec une batterie de logiciels, de comparaisons statistiques d'arbres pour regarder la pertinence et la similitude des arbres évolutifs entre virus et hôtes. Alors, il y a quelques collègues biologistes qui poussent même le bouchon un peu plus loin en disant que finalement, nous serions que des supports évolutifs aux virus ou aux bactéries. Bon, ça dépend dans quel clade, en fait, on se situe pour observer le reste de la biodiversité. Et en ce qui concerne les parasites assez cool qui sont pas trop dérangeants ou pas trop pathologiques, vous en avez un derrière. C'est une photo, enfin c'est une image, un arrêt sur image d'un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Pacific Rim. Merci, je l'ai entendu. Où là, on voit en fait un ectoparasite d'un kaiju. Alors les kaijus, c'est des énormes monstres extraterrestres qui viennent de la marge pacifique, comme le nom l'indique, et qui sont tellement énormes que ce sont des écosystèmes finalement comme nous aussi, comme beaucoup de formes de vie à part entière, des écosystèmes qui hébergent différentes formes de vie, soit à l'intérieur, donc ecto, soit à l'intérieur, endoparasite. Et là, on avait en fait une sorte de parasite articulé de type arthropode c'est presque du copier-coller avec ce qui existe réellement sur les baleines. Ce sont des crustacés. C'est une certaine famille de crustacés qui se collent gentiment en fait au cuir. À la peau, sur la peau de la baleine et qui nettoie, soit au niveau buccal, soit au niveau anal, la baleine qui sent quasiment rien et qui est même assez satisfaite d'avoir un nettoyeur externe pour se débarrasser d'autres saloperies.
Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette histoire sur les baleines à bosse en particulier. Il y a une équipe, entre autres un collègue qui s'appelle Laurent Soulier, qui est au musée de la mer à Biarritz, qui a eu l'idée assez pertinente que puisqu'il y a des populations de baleines à bosse assez différentes qui ne semblent pas trop se mélanger à la surface dans les océans de la planète, si on peut collecter quelques-uns de ces parasites sur des populations différentes et qu'on fait la génétique des parasites, on devrait retrouver cette différence puisque les baleines ne se croisant plus entre populations, les parasites non plus. Et donc, il a eu l'idée sympathique de dire ben, « je vais aller ramasser des poux sur les baleines ». Et donc, il a fait une expédition en Polynésie française. Ça a été assez compliqué. Les baleines n'étaient pas toujours d'accord. Mais il y a un moment, ça a marché. Et la baleine s'est vraiment laissée faire. C'est extraordinaire. Sans doute, il y avait eu... ils ont resté quand même plusieurs semaines avec son équipe. Donc, peut-être que les individus hommes avaient été reconnus par les individus baleines qui ont fini par se dire « bon, ils étaient un peu bizarres, un peu curieux, mais pas forcément très méchants ». Et ils ont réussi à récupérer un ou deux parasites. Mais bon, ça a pris plusieurs semaines pour un ou deux parasites. Et s'il faut faire ça par population de baleines, ça va être du boulot. Mais on peut imaginer aller jusque faire cette scène-là avec un vrai parasite d'une vraie baleine dans l'océan, à quelques mètres sous la surface.
D'ailleurs, un des kaiju ou des monstres comme ça un peu mythologiques, c'est Godzilla ou Gojia. Et en japonais, ça veut dire gorille baleine. Donc finalement, c'est pas si anormal que ça, que Guillermo del Toro, dans le premier Pacific Rim, est collé, c'est le cas de le dire, de l'ectoparasite sympathique à ces kaijus géants, pour rappeler peut-être leur origine aquatique ou leur origine étymologique.
Mais au niveau des parasites, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'au bout d'un moment, on décide de la taille d'un parasite? Est-ce que le critère de la taille est un critère discriminant?
Il y a des très très longues discussion pour savoir quel est le plus grand animal sur la planète. Et alors, si on prend en volume, en masse, en taille, en longueur, on aura des résultats très différents. Mais vous avez des parasites qui mesurent des dizaines de mètres de long. Alors, c'est très fin, mais c'est très long. Alors, ça pourrait faire un tour dans la pièce, comme ça, bon, et qu'on trouve dans des poissons, dans des vertébrés, divers groupes. Donc, en niveau longueur, on peut en mettre beaucoup dans un petit volume s'ils sont très, très fins. Après, des gros parasites, je ne sais pas si vous avez déjà vu des poux d'hirondelle. Vous voyez une hirondelle? Ce n'est pas très très gros quand même. Un poux d'hirondelle, c'est vraiment la taille d'une punaise. Les punaises des jardins, les punaises vertes. En proportion par rapport à l'oiseau, c'est vraiment impressionnant. Et on a mal pour l'oiseau quand on voit ce machin-là lui courir entre les plumes. Voilà. Sachant qu'après, notre histoire est rigolote parce que vous savez que nous, humains, nous sommes les seuls primates avec une puce. Pas de chance. Et pourquoi? Parce que les puces, leurs larves sont dans le terrier de l'hôte où la larve va se développer et la larve va, elle est complètement... elle mange des débris à ce moment-là, elle n'est pas du tout hématophage. Elle mue et quand elle devient adulte, elle va passer sur l'hôte pour commencer à se nourrir. Sauf que les grands singes qui sont arboricoles, qui changent de nid tous les jours, ne peuvent pas avoir de puce. Donc nous, on a une puce, et c'est forcément qu'on l'a récupérée depuis qu'on est sédentarisé, avec un animal soit commensal, soit de compagnie. Et du coup, l'expression « qui dort avec son chien se lève avec des puces » n'est peut-être pas fausse. Il y a une discussion pour savoir si la puce de l'homme est plutôt d'origine canine ou plutôt d'origine souris, rat, qui sont venus, alors c'est pas nous qui les avons domestiqués, mais qui se sont installés dans nos maisons. Et c'est sans doute l'explication pour laquelle nous sommes les seuls primates avec une puce.
Donc la puce est adaptée à...
Les puces sont des animaux qui s'adaptent à beaucoup de choses, y compris à nous.
J'avais une petite question. On parlait d'hématophage. Le vampire est-il un parasite hématophage? On en discutait.
Oui, quelque part. Puisque, alors, ça dépend aussi des œuvres, mais il y a... le vampire doit finalement se nourrir de sang des autres, un certain degré en tout cas de dépendance, et à partir de cet axiome-là, de ce principe-là d'interaction entre organismes, on a des scénarios différents. Alors il y a le vampire qui est vraiment malade, enfin infecté. Je pense, en ce qui concerne la science-fiction, enfin une sorte de science-fiction à Daybreakers, par exemple, au cinéma, où là, le principe est d'essayer de se décontaminer du vampirisme, parce qu'un vampire qui a faim, à terme, il se transforme vraiment en une sorte de monstre. Et la société est maîtrisée et contrôlée par des vampires qui sont à la tête des gouvernements. Et il y a de moins en moins de sang frais humain. D'ailleurs, il y a du sang génétiquement modifié, enfin de synthèse, qui est donné en fait à ces vampires-là qui deviennent malades à terme pour essayer de pallier un petit peu cette infection. Dans le vampire classique qu'on a vu au début de la conférence, on est dans une sorte d'œuvre gothique où le vampire est une sorte de baron déchu qui pète un câble et qui commence à ne plus sortir le jour. Il est atteint de scorbut. Il commence à apprécier le sang. Il est sanguinaire. Il empale en fait ses victimes. Et il n'y a pas forcément de propagation. Après, encore une fois, ça dépend des versions. Dans Dracula, typiquement de Stoker, par exemple. Là, on a une transmission en fait du virus hématophage. Mais des hématophages, ça existe. Et du vampire, au sens strict, ça existe aussi. C'est une espèce de petite chauve-souris. Il y a trois espèces, sud-américaines, je crois, ou méso-américaines, qui ont besoin vraiment de sang. Alors, le problème, c'est qu'elles véhiculent la rage, je crois. Et pas toutes. Elles s'agrippent, en fait, au dos, sur le dos des bœufs, des vaches. Elles lèchent, en fait, le derme. Pour percer en fait et atteindre les canaux vasculaires et se nourrir en fait de sang.
Alors elles ont un sourire un peu différent du monsieur là. Elles ont encore moins de dents parce que c'est pas la peine d'avoir des mâchoires pour manger du sang, ça se mâche pas. Alors pour information, les vampires chauves-souris, les trois espèces ont été découvertes et connues de la science après les légendes des vampires, après toutes les histoires. Donc c'est en analogie avec ces légendes qu'on les a appelées vampires. Mais ce n'est pas elles qui ont créé la légende, en tout cas dans l'Ancien Monde. Elles sont strictes au Nouveau Monde. Et alors, elles mordent des mammifères, soit des oiseaux. Et elles se posent en général à côté. Elles viennent en marchant. Ça pèse 30 grammes, 40 grammes. Ce n'est pas un très gros animal. Et donc, avec les incisives, elles font une petite plaie. Le sang coule et la langue en gouttière fait pompe en même temps pour aspirer le sang. Et elles prennent un volume assez conséquent, et tellement qu'elles ne peuvent plus décoller, elles sont trop lourdes. Et il faut que leurs reins filtrent en direct et en urgence le sang, éliminer une partie de l'eau, et elles urinent avant de pouvoir redécoller, sinon elles ne peuvent pas repartir. Leur salive étant anticoagulante pour fluidifier l'alimentation. Et du coup, certaines de ces molécules de leur salive sont utilisés en médecine comme anticoagulants, mais c'est vrai que de temps en temps, avec le virus de la rage, c'est quand même un petit peu fâcheux. De temps en temps, il y a des cas humains. Il y a quelques années, on a eu un cas en Guyane française, puisqu'on a ces vampires là-bas, d'une personne qui dormait régulièrement en forêt et qui a dû être mordue par un vampire qui, malheureusement, celui-là, était porteur du virus.
Et puis, chez les insectes, vous avez plein d'hématophages, pensez aux moustiques, typiquement à l'anophèle, qui en plus de vous pomper le sang, vous injecte d'autres saloperies du genre palu ou virus Zika ou
Attention, il ne faut pas mélanger tous les virus et tous les moustiques. Hein. Chaque virus son moustique, enfin non, ce n'est pas aussi simple que ça, mais anophèle, c'est plutôt palu, les culex ou les aedes, le culex, c'est plutôt le... c'est West Nile, peut-être ça vous dit quelque chose, Nil occidental, ça c'est les culex, et les aedes, c'est chikungunya et Zika qui sont les virus à la mode, parce qu'il y a des modes de virus, vous avez remarqué ça, on parle de certains à certains moments, donc là on est un peu dans la phase mode pour chikungunya et Zika, et ça ce sont des aedes.
Mais il peut y avoir plusieurs virus pour une espèce de moustique.
Oui, tout à fait, mais il y a quand même des tendances avec des associations de genres et plusieurs espèces, le palu, le West Nile, la dengue, chikungunya, avec en général des groupes de virus différents, des groupes de moustiques différents.
Donc là, chez les insectes, on a une modification de l'appareil masticateur sous forme de trompe ou de micro-aiguille qui va perforer en fait le derme des mammifères. Est-ce qu'il y a des moustiques qui se nourrissent de sang de non-mammifères?
Oui, on trouve des... Ah oui, tout à fait. Les moustiques peuvent se nourrir sur des reptiles, peuvent se nourrir sur des batraciens. Et si je me rappelle le début de Jurassic Park dans le livre, au tout début, j'ai souvenir, ça je l'ai... On me l'a dit, je ne l'ai pas vu, hein, je l'ai peut-être lu, mais c'est à partir d'un moustique fossile dans l'ambre, dans lequel on a trouvé une hématie de reptiles de secondaire. Et vous savez que nous, on n'a pas d'ADN dans nos hématies, dans nos globules rouges, mais les oiseaux et les autres vertébrés en ont. Donc si on trouve une hématie de reptiles, on a son ADN. Et donc c'était à partir de ça, dans l'histoire, qu'on reconstitue. Alors, curieusement, si je me rappelle, dans l'histoire, on passe sur un batracien pour faire multiplier le virus. Alors là, je ne sais pas très bien comment on passe du reptile au batracien pour revenir au reptile. Ça, au niveau technique, personnellement, je n'ai pas compris.
Oui, ça c'est bon, c'est le côté fantastique. Enfin, c'est de la fiction. On utilise de l'ADN de grenouille pour combler le vide de l'ADN de dinosaure. Mais effectivement, il y a du moustique dans Jurassic Park. Après, nous, en termes de paléontologie et de registres fossiles, alors, on ne connaît pas de moustiques de cet âge-là, mais il y a des tiques qui sont connues dans l'ambre contemporaine de certains dinosaures.
Et elles sont quasiment semblables aux tiques que l'on connaît maintenant. Ouais.
Ah, les tiques, c'est bien aussi, hein. Oh, franchement. Alors, bon, si vous voulez être très strict, vous dites un moustique m'a piqué et vous dites une tique m'a mordu. Bon. Ça fait chic comme ça, mais ça change pas grand-chose. Et par contre, les tiques peuvent transmettre aussi quelques bactéries, quelques virus sympathiques. Bon, bactéries, maladie de Lyme, très connue, on en parle beaucoup, peut-être pas toujours très bien d'ailleurs. Et un virus qu'on trouve en Alsace et plus à l'Est, le virus dans l'encéphalite atique. Et ça, c'est pas rigolo du tout.
Et ce virus fait quoi, en fait ?
Eh bien, un virus d'encéphalite, ça a tendance à se localiser au niveau du cerveau, à s'y multiplier. Dans la plupart des infections, la majorité des personnes infectées fait une forme assez fruste, parfois inapparente. Et en moyenne, mais ce sont des moyennes, on a peut-être qu'une dizaine de pourcents des infectés qui feront une forme clinique. Et parmi ces formes cliniques, une petite minorité, malheureusement, peut faire une forme assez grave. Donc ça, c'est des pourcentages qui sont vrais en moyenne. Et après, chacun individuel, eh bien, il peut être différent. Donc les statistiques, ça donne une information sur le passé. Ça donne pas une probabilité pour vous le jour où vous serez exposé à l'un ou l'autre. Il faut bien faire la différence dans les deux sens.
Toute autre transition, en discutant tous les trois pour préparer cette conférence, on a évoqué The Thing de Carpenter, le film qui se passe en Antarctique. Est-ce que The Thing, cette chose plus ou moins extraterrestre qui prend la forme humaine et l'apparence des acteurs, est un parasite pour vous ?
Ça, c'est un truc bizarre quand même. Hein. J'en avais jamais vu. Et en plus, on ne le voit pas très très bien. Non, je pense que ça, c'est vraiment une fiction qui est plutôt spectaculaire, qui marque, mais en équivalence par rapport à des êtres vivants sur Terre, ça ne me dit pas grand-chose quand même.
On a fait un ciné-club ensemble avec François sur après la projection de La Chose. C'était le film de Carpenter. C'était, oui, entre guillemets, l'original, parce qu'entre-temps, oui, il y a eu une préquelle un peu plus récente, mais qui nous raconte en fait ce qui se passe avant que La Chose détruise complètement la base finlandaise, je crois, si je me souviens bien. Et ça se passe sur une base antarctique toujours, mais américaine. Je ne sais pas si c'est McMurdo ou une autre. Enfin bref, on apprend un petit peu l'origine, on confirme l'origine extraterrestre de La Chose, qui est assez extraordinaire dans le sens où on a du parasitisme, on a du virus, et en plus on a une duplication de l'hôte. Puisque Antarctique oblige aussi, ça se finit en huis clos, et il faut trouver le copain, le collègue qui est infecté par des tests différents en fonction des films, justement. Alors, je crois que c'est le film de Carpenter, le test, c'est il faut chauffer le sang, puisque La Chose est présente aussi dans le sang, et si le sang dans la coupelle en verre va se barrer contre le mur, par exemple, c'est que le sujet en question est infecté. Donc là, il faut vite le tuer parce que La Chose risque de sortir. C'est un truc presque multi-organisme.
En fait, oui, ça cumule plusieurs notions qu'on peut trouver individuelles dans différents cycles parasitaires, mais jamais associées. Alors, le parasite qui se sauve parce qu'on le chauffe dans le sang, ça, j'en connais pas du tout. Hein. Quand on fait un test au laboratoire, en général, le tube de sang reste dans le tube de sang. Enfin, le sang reste dans le tube de sang, il court pas partout, quoi.
C'est que la chose est très intelligente.
Ouais, sans doute, ou bien très sensible au chaud, en tout cas. Hein, ça doit vraiment la brûler. Mais on a quand même sur Terre des parasites pas si marrants. Donc, en fait, en zone tempérée, on est plutôt protégé du parasitisme. Et quand même, il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que ça fait 3 ou 4 générations d'humains dans nos pays qui vivons pratiquement sans parasites, ni internes, ni externes, ni endoparasites, ni ectoparasites. Et ça, c'est très original. Notre espèce a à peu près 200 ou 300 000 ans. Et donc, depuis un siècle, dans nos pays, les humains vivent sans parasites. Or, on a quand même vécu donc très longtemps avec, et pour faire face à ce parasitisme qui était souvent supporté, avec parfois des phases plus ou moins agréables de cohabitation, on a développé un arsenal d'anticorps de façon de se protéger contre ces parasites, en particulier à l'âge adulte, après l'adolescence, quand on s'est un peu stabilisé et qu'on a maîtrisé cette charge parasitaire. Et aujourd'hui, on n'a plus les parasites, mais on a toujours les armes pour lutter contre. Et on parle régulièrement d'augmentation de maladies de type allergique et de maladies auto-immunes. Peut-être vous avez entendu parler de ce type de maladie. Et une des explications, et sans doute c'est pas la seule, c'est rarement monofactoriel, mais une des explications serait que notre organisme, avec cet armement qui n'a plus de cible, finit par viser de travers et attaquer des cellules du propre organisme porteur. Et une partie donc de l'explication serait l'absence de parasitisme actuellement chez nous. Et dans certains cas de maladies auto-immunes, sous contrôle médical, on fait avaler des ascaris, par exemple, à des personnes pour redonner une cible au système immunitaire avec réellement des améliorations physiologiques des personnes malades.
Des ascaris, ce sont des vers, du coup ?
Exactement, ce sont des vers localisés en forme adulte au niveau de l'estomac, ce qui n'est pas habituel. Beaucoup de parasites sont localisés plus bas dans l'intestin, dans le tube digestif. Et donc, l'absence de parasites est un succès médical, mais a évidemment, comme beaucoup d'étapes du progrès, entre guillemets, de temps en temps un revers parfois désagréable.
Oui, un petit coup de parasitisme au cours de l'évolution des espèces, ça fait pas de mal finalement. Et puis même au cours de l'évolution individuelle, on pense à nos cousins primates qui passent leur temps, avant de se faire éventuellement des papouilles, à s'enlever les puces. C'est un comportement social de placement de l'individu, les poux, pardon. C'est un comportement social de placement de l'individu au sein du groupe. C'est tiens, tu m'enlèves les poux et puis. Éventuellement, tu vas jouer ailleurs après, ou tu fais partie du clan, c'est cool. Donc il y a un rôle entre guillemets. C'est pas voulu, bien sûr, par le parasite, ni peut-être même par l'hôte. Mais il y a une sorte de rôle social finalement du parasite dans les sociétés de primates que l'on a perdu peut-être si on compare en fait avec nos cousins les grands singes.
Alors c'est sûr que si vous prenez le métro à Paris, je sais pas trop à Nantes, mais tous les gens avec leurs casques sur les oreilles, bon c'est pas très. Alors c'est sûr qu'on va pas se gratter les poux dans le métro, mais on pourrait faire ça. Ça peut-être que ça créerait des liens, peut-être que ça rendrait le métro plus sympa. Alors que chacun dans son coin avec son téléphone, ses écouteurs, bon. Alors ceci dit, les puces dans le métro, ça passe bien quand même. Et là, sans qu'on fasse quoi que ce soit, elles passent toutes seules.
Et comment on fait? On parlait de détection tout de suite et on parlait du fait que l'homme n'avait très peu de parasites. Comment on détecte un parasite et comment on trouve un traitement sur un parasite?
Ça, c'est toute une démarche. Alors, la détection, elle peut commencer par de la clinique, évidemment. Quand des personnes sont très parasitées et avec éventuellement un organisme un peu en défaillance, on a des signes cliniques, on a un état général qui se dégrade, donc là on a des signes d'appel. Et après il y a des tests qui soit alors parasite intestinal, coproscopie, on va chercher dans les selles les traces des œufs ou des segments du parasite et on peut identifier. Et après il y a toute une chimie qui s'est mise en place. Et Jean-Baptiste a une collègue au muséum qui s'appelle Sabrina Kriff, qui travaille sur l'automédication chez les primates non humains. Et en Ouganda, elle travaille donc dans une zone naturelle où sont encore présents des chimpanzés. Et clairement, ces animaux, ils ne sont pas les seuls. On a des exemples d'automédication, y compris chez les insectes. Et c'est assez troublant. Donc ces chimpanzés vont chercher des plantes à des moments donnés. Ce n'est pas du tout des plantes qui sont consommées pour des raisons alimentaires, mais ce sont des plantes qui, soit par les molécules qu'elles hébergent, soit parce que mécaniquement, elles sont très riches en fibres et en petits piquants, mais très, très, très denses, elles vont extraire ou pas forcément tuer les parasites, mais les immobiliser. Et du coup, les mouvements naturels de l'intestin, le péristaltisme, vont les évacuer dans les selles. Et clairement, les animaux savent, quand il y a des problèmes, ils le ressentent sans doute, et ils savent quelles plantes aller chercher. Et du coup, l'équipe de Sabrina va ramasser les plantes pour vérifier quelles sont les molécules qui sont dedans et si éventuellement, on pourrait trouver des applications pour traiter les humains, donc les cousins des chimpanzés, d'affections qui seraient proches ou qui seraient analogues.
Pour revenir à la chose, ce qui est intéressant, c'est un truc qui se crache en fait sur Terre, qui pénètre en fait la glace, la calotte glaciaire de l'Antarctique, et que les protagonistes au début du film trouvent à l'état de congelé en fait. C'est une sorte de glaçon, un cube de glace, ils prennent de la glace et puis ils vont pour faire des analyses et puis là les problèmes commencent, les problèmes sérieux commencent. Et cette idée de décongélation en fait de parasites dans ce cas-là ou de virus existe réellement. J'ai une collègue au CNRS qui travaille sur les mégavirus, une famille en fait de virus assez grosse en termes de taille, dont les premiers représentants sont issus en fait du permafrost en cours de décongélation, c'est-à-dire le sol plus ou moins gelé en Sibérie livre en fait des restes fossiles visibles, bien sûr, comme des carcasses de mammouths ou d'autres organismes macroscopiques, mais aussi, il y a des petites choses intéressantes, et les collègues en question ont découvert une famille entière de virus grâce ou à cause du réchauffement climatique qui décongèle une partie de ce permafrost qui correspondait à un sol complètement gelé à l'époque.
Il nous reste un petit quart d'heure, je pense qu'on va passer la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui va passer.
Plein de questions, c'est bien.
Il y a plein de questions, c'est bien.
Bonjour, merci. Justement, je rebondis sur votre dernière intervention. C'est ça que j'aurais aimé poser comme question. Vous avez évoqué le fait qu'en Occident, dans les pays tempérés, globalement, nous n'étions plus parasités. En tout cas, plus de parasites pathogènes majeurs, contrairement aux zones situées plus au sud, où il y a encore beaucoup, beaucoup de parasites. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique et l'évolution globale du climat, on peut s'attendre à voir ces parasites remonter, en quelque sorte, un petit peu comme on a vu des cas, je crois, dans le sud de la France, de palus ou de choses comme ça, d'autres parasites plus endogènes, notamment type vert, la bilharziose, ce genre de choses. Voilà.
Alors, vaste sujet. C'est clair que pour des virus qui ont besoin d'un moustique, d'un vecteur pour pouvoir se développer, il faut à la fois que le virus se déplace et que le vecteur se déplace. Alors, les moustiques voyagent très bien. Le fameux Aedes albopictus, hein, le moustique tigre, il est parti d'Asie du Sud-Est. Il est passé à La Réunion, il a remplacé l'Aedes qui était déjà là, et il a passé la Méditerranée. Il est maintenant installé dans le sud de la France, et clairement, on a régulièrement des captures de plus en plus au nord. Après, il y a nous, les humains, et vous savez qu'on est, sur nos 7 milliards et quelques de terriens, plus de 3 milliards à être transportés par des avions tous les ans. Et là-dedans, donc, vous avez des gens qui rentrent de pays du sud, en quelques heures, ils sont en France, et certains sont en virémie avec le virus qui se balade dans leur organisme. Et donc aujourd'hui, si vous mettez un Français qui rentre de voyage avec un virus Zika, un virus chikungunya ou l'agent du paludisme, on a le moustique qui l'attend à domicile et qui s'installe, qui s'est installé chez nous, on peut déclencher des petites épidémies ponctuelles, on l'espère, dans nos climats, chose qu'on n'avait pas vue depuis extrêmement longtemps. Donc c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Et inversement, côté nord, Vous vous rappelez l'histoire de l'homme des glaces qu'on a trouvé dans un glacier des Alpes, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, et qui a été étudié dans, sous toutes ses coutures. Enfin, on a beaucoup écrit sur lui. Mais imaginez que cette personne soit morte, donc, il y a 2 ou 3 000 ans, je ne sais plus, de la variole. Dans un glacier, c'est exactement ce que nous, on fait au laboratoire. Quand on veut garder un virus, on le met au congélateur. Alors, les congélateurs d'au moins 80, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait ceux les glaciers ne descendent pas aussi bas. Mais une des questions qui est posée par le réchauffement climatique dans la partie nord de la planète, c'est de tomber sur des endroits où seraient morts des gens il y a plusieurs siècles avec des virus et qui seraient remis en circulation, si je puis dire, avec le réchauffement. Or, la variole, on a arrêté la vaccination il y a maintenant une quarantaine d'années. Les plus jeunes ici ne sont plus vaccinés. Les plus âgés dans mon genre ont encore sans doute des anticorps, et ça fait partie des armes biologiques auxquelles certains pensent d'une façon ou d'une autre. Et donc ça fait partie des scénarios pas totalement improbables de remettre en circulation un virus qu'on avait maîtrisé, qu'on a éliminé naturellement, enfin, avec des campagnes d'éradication, et peut-être que le réchauffement nous remettra en présence de certaines souches oubliées sous un glacier.
Alors en fait, si je revenais en fait tout à l'heure au sujet du zombie ou du vampire, en fait, est-ce que le parasitisme peut exister à la fois du gars du vivant, par exemple le vampire quand c'est contaminé, mais l'exemple, je sais que ça va être un peu particulier, du mort-vivant, bah le zombie ou vampire, lorsqu'on a parlé dans cette conférence, en fait, est-ce que le parasitisme peut-il se transmettre par la mort, comme le cas du mort-vivant? C'est un exemple un peu particulier, je sais.
Oui, effectivement, il y a les White Walkers. On est transformé en White Walkers à partir du moment où on se fait latter par un autre White Walkers. Donc il y a une sorte de duplication, un petit peu comme avec la chose. C'est pas vraiment la même duplication parce que il y a pas de double en fait qui est produit par la chose. Mais enfin par le White Walkers, mais par contre le double identique qui est presque une sorte de clone créé par la chose dans donc le film de Carpenter, là on a cette entre guillemets cette solution là. Mais pour revenir, je voudrais revenir en fait sur la première question, et paradoxalement c'est vrai que même si on est moins parasité si on compare avec nos cousins primates, enfin les autres primates, on porte depuis quelques milliers d'années beaucoup moins de parasites qu'eux. Paradoxalement, nos activités humaines peuvent influencer gravement en fait la redécouverte entre guillemets de virus ou de parasites, ou on pense aux espèces invasives aussi. L'action de l'homme, de par les transferts, les voyages, de par les imports-exports, l'action de l'homme, que ce soit commercial ou non en termes d'import-export, a un rôle non négligeable sur le transfert d'une espèce d'un pays donné, enfin d'une région donnée, à une autre qui peut éventuellement devenir envahissante. En fait, on devrait, je crois, parler d'espèces envahissantes et non pas d'espèces invasives. Invasive species, c'est un anglicisme, hein, c'est ça?
Alors, c'est la terminologie que je défends. Invasive, c'est la chirurgie ou une opération militaire. Inversement, une espèce qui envahit un territoire au sens écologique, ça serait une espèce envahissante. Mais enfin bon, on ne va pas chipoter un mercredi après-midi sur ce sujet-là quand même.
Oui, bonjour. À l'instar de ce qu'on a parlé tout à l'heure, notamment au niveau des zombies, il y a dans la culture science-fiction un thème qui est pas mal abordé, c'est une pandémie mondiale. Est-ce que, au niveau de ces parasites, par notre mode de vie actuel, notamment les avions, etc., est-ce qu'on pourrait envisager une pandémie, comme la science-fiction l'évoque parfois, c'est-à-dire globale et avec une destruction quasi totale de la population?
Alors, c'est une question qu'on a déjà débattue dans pas mal de contextes. Personnellement, j'aurais tendance à dire que je ne vois pas comment ça serait possible aujourd'hui avec les agents pathogènes, au moins que je connais. Rappelez-vous, en 2009, je crois, lorsqu'on a découvert H1N1 au Mexique, en Californie, et que l'OMS a déclaré pandémie mondiale pour une souche grippale influenza qui finalement a tué des gens certainement, mais beaucoup moins que ce qu'on avait craint. Et si on prend dans le passé les deux grandes pandémies dont on peut faire état, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, le virus de la grippe, une autre grippe qui a tué, alors on ne sait pas si c'est 10 ou 100 millions de personnes, mais le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui, pour plein de raisons, je ne vais pas forcément les développer, mais il y a beaucoup de raisons qui montrent que c'est différent de projeter ce contexte-là à aujourd'hui. Et après, plus loin au Moyen-Âge, c'est la peste bubonique qui est venue d'Asie, qui a tué quand même le tiers de la population européenne. Je ne crois pas qu'on ait fait mieux, à part les Européens, quand on a débarqué en Amérique. Et vous savez que ce ne sont pas les mousquets ou les armes des conquistadors qui ont tué les Amérindiens, ce sont nos virus. La variole, la grippe, la rougeole, et au début de façon fait une surprise. Et puis, à partir d'un certain moment, il y a des gens qui ont fait le lien entre un certain nombre de cliniques chez les humains européens qui supportaient et pas les gens en face, et ça a été volontairement disséminé. Mais au-delà de ces schémas-là, je pense qu'on a une telle diversité génétique dans nos 7 milliards et demi d'humains que je vois mal une souche, quelle qu'elle soit, capable de trouver un terrain facile de développement dans toute cette diversité. Et je pense aussi, même si on bouge beaucoup, au nombre de populations isolées qui sur des îles, sur certains continents, certaines régions, qui pour différentes raisons ne sont pas reliées du jour au lendemain avec le reste de la planète, qu'on aurait sans doute à la fois des isolats génétiques qui résisteraient et des isolages géographiques qui seraient protégés. Mais bon, c'est juste ma réponse. Et bien sûr, je ne peux pas garantir que ça se passera comme ça. Mais les connaissances que j'ai actuellement sur les virus dont on a connaissance ne me laissent pas penser qu'on pourrait avoir ce genre de scénario.
Par contre, effectivement, la science-fiction s'approprie un petit peu de tout ça. C'est la parasitologie, finalement, est une mine d'or pour les artistes et les auteurs de science-fiction, que ce soit au cinéma ou en littérature. Au cinéma, on pense à la dernière version de La Planète des Singes, où il y a une transformation, en fait, et une guerre, et effectivement, entre singes, enfin, autres primates et primates non humains et humains, avec une notion de pandémie à la fin du premier épisode de la saga. Et puis on peut penser à l'Armée des Douze Singes aussi, toujours dans le registre cinématographique de la science-fiction, où là on est dans un genre post-apo, et puis l'humanité en gros se réveille entre guillemets suite à une catastrophe, enfin en tout cas la guerre bactériologique. Tu parlais de l'invasion occidentale aux Amériques, finalement, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, où on distribuait volontairement des couvertures infectées aux populations locales. Ça se fait malheureusement dès le Moyen-Âge, où pour latter en fait un autre peuple, on va encercler la capitale et puis on va balancer toutes sortes de charognes ou de cadavres par catapulte à l'intérieur de la capitale, qui est en train de vivre en autarcie d'une manière de plus en plus difficile. Hein. C'est un état de siège finalement, et on rajoute à l'état de siège la guerre bactériologique.
Ouais, c'était la peste. Oui. Balancer des cadavres de gens pesteux par-dessus les murailles en catapulte, c'est moyennement sympathique, on est d'accord.
Bonjour. Donc c'est au sujet d'un phénomène qui a eu lieu dans le jeu en ligne World of Warcraft, où il y a eu une véritable épidémie il y a quelques années. Donc c'est à cause d'un défaut dans les mécanismes du jeu. Il y avait un adversaire donc, qui avait une attaque appelée la peste de sang, donc infligeant des dégâts sur la durée. Et en fait, cette attaque était censée être circonscrite au combat. Il y avait un défaut dans les mécanismes du jeu que je ne vais pas expliquer, mais qui permettait en gros de l'emmener en dehors et donc de la répandre notamment dans les villes où, comme il n'y avait aucun moyen de la contrer, elle pouvait décimer tous les joueurs présents à ce moment-là. Et donc, bien sûr, dès que ça a été compris, il y a eu des petits malins qui se sont amusés à la répandre exprès. Et donc là, pendant 2 semaines, on a assisté à des phénomènes sociaux assez semblables à ceux qui avaient notamment l'épidémie de peste au Moyen-Âge, où les joueurs fuyaient les villes, les évitaient au maximum, avec quand même nettement moins de dégâts, de problèmes, parce que eux, bien sûr, ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir définitivement. Donc je sais que ça a été beaucoup étudié par les épidémiologistes, parce que c'était un échantillon social assez intéressant. J'aimerais avoir votre avis professionnel là-dessus.
Alors moi, je ne connais pas du tout ce jeu-là, je ne connais pas cette histoire. Alors ne pas mourir complètement, je trouve ça intéressant. Parce qu'en général, moi, enfin voilà, il y a les vivants et les moins vivants. Enfin, bon. Non, mais sincèrement, je connais pas cet exemple-là. Alors peut-être ça pourrait intéresser mes collègues encore en activité, mais si vous avez des références. Mais comme je suis absolument en dehors des jeux vidéo, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Donc, mais c'est sûr que le phénomène social à côté de l'épidémie, même si je parle de vraie épidémie, est parfois intéressant, parfois plus compliqué à gérer que l'épidémie médicale, sanitaire. Les gens sont capables de faire des choses devant un risque d'épidémie totalement incohérent par rapport à l'intérêt général. Et si ce n'est pas anticipé un tout petit peu, les risques sont plus du côté des comportements humains que de la médecine. Et ça, c'est quelque chose de très important, absolument.
Et merci pour votre intervention. C'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'elle fait aussi penser au virus informatique. Alors, ça sera peut-être l'occasion d'une autre table ronde, hein, mais le virus informatique, c'est aussi un sujet d'étude dont la science-fiction raffole finalement pour explorer différents scénarios possibles dans une société hyper connectée ou autre.
Merci.
On va prendre une dernière question.
Bonjour. C'était pour savoir si ce serait possible dans le monde réel qu'il y ait une épidémie qui transformerait les gens en zombies. Si c'est possible que les insectes attrapent un parasite qui mange les moutons ou les brebis, etc. Nous, on va manger les moutons et les brebis derrière. Du coup, est-ce que ce serait possible que ça se termine en épidémie?
Alors, je ne sais pas si manger une brebis, c'est une épidémie. Et si beaucoup de gens qui mangent beaucoup de brebis, ça fait une grande épidémie. Mais dans le monde réel, ça n'est jamais arrivé. Et à ma connaissance, ça fait 8000 ans que nous mangeons des brebis. Donc, on peut se dire que statistiquement, on a une certaine probabilité que ça ne soit pas probable. Et après, j'aimerais qu'on définisse le mot « zombie ». Parce que tant qu'on n'aura pas une définition claire biologique, on pourra toujours discuter sur est-ce que nous sommes des zombies là dans cette salle ou pas. Peut-être que finalement Homo sapiens est un zombie et que c'est les zombies qui sont des... Enfin voilà, c'est compliqué par rapport au moment où la définition n'est pas totalement figée et qu'on ne l'a pas entièrement partagée entre nous. Mais ouais, je pense qu'a priori, la probabilité est faible que ça arrive. Si ça peut te rassurer, enfin je ne sais pas. Mais bon.
On peut dormir sur nos deux oreilles.
Sur ces mots, on va clore nos échanges. On vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je crois que tu es en dédicace. Juste... Vous retrouverez Jean-Sébastien Steyer en dédicace juste après au niveau de la librairie. Et pour ceux que le cinéma intéresse, il y a l'invasion des profanateurs qui est diffusée à 17h15. Dans une des salles de cinéma. Je vous invite à regarder le programme et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.